Bienvenue, aujourd'hui on plonge aux frontières de la physique moderne. On a des sources assez incroyables qui nous emmènent de l'infiniment petit jusqu'aux confins de l'univers.
Oui, c'est ça.
Notre objectif, c'est un peu de naviguer là-dedans. Physique des particules, cosmos, les matériaux aussi. Et voir comment tout ça, comment ça s'agence, quoi. Prêt? Allez, on y va.
Absolument. Et ce qui est fascinant, en fait, c'est que la physique, elle cherche vraiment les règles du jeu. Les lois fondamentales de tout ce qui existe. Et pour ça, on a besoin d'outils, des outils expérimentaux comme le LHC, le grand collisionneur, pour aller voir de très près, et puis des théories, bien sûr, comme le fameux modèle standard.
Le modèle standard, alors ça, concrètement, c'est quoi?
On parle des quarks, ceux qui font les protons, les neutrons, et les leptons, genre l'électron. C'est un peu les briques de base de tout, non?
C'est exactement ça. Les constituants élémentaires de la matière qu'on connaît. Et ces particules, elles interagissent, elles communiquent via des forces. La force forte, la faible, l'électromagnétique.
D'accord.
Et la découverte majeure de ces dernières années, ça a été le boson de Higgs. Lui, son rôle est absolument crucial. C'est lui, enfin le mécanisme associé, qui donne leur masse à la plupart des autres particules.
Ah oui?
Sans ça, l'univers serait complètement différent, probablement invivable.
Attendez, ça veut dire que... Avant que ce mécanisme, disons, s'enclenche, très tôt dans l'univers, les particules, elles flottaient sans masse. C'est assez dingue comme idée. C'est vertigineux, oui. Et ça montre aussi qu'on n'a pas tout compris, parce qu'il reste des ondes d'ombre.
Comme les neutrinos, j'ai lu ça. Ils ont une masse même toute petite.
Exactement, la masse des neutrinos. Et puis le fait qu'ils puissent changer de type, ce qu'on appelle l'oscillation. Ça, ce sont des indices clairs que le modèle standard, il n'est pas complet. Et on a des expériences énormes avec des détecteurs géants pour essayer de comprendre ce mystère-là.
Ok. Bon, si on change d'échelle radicalement, on quitte le tout petit pour le très très grand, l'univers. Le Big Bang, ça reste le scénario principal, hein ?
Avec cette idée d'expansion... Oui, tout à fait. L'expansion, on la voit très bien avec le décalage vers le rouge de la lumière des galaxies lointaines. C'est la loi de Hubble. Et puis, il y a cette preuve incroyable, le fond diffus cosmologique.
Le rayonnement fossile.
Voilà, la première lumière de l'univers qu'on capte encore aujourd'hui. C'est une photo de l'univers bébé, en quelque sorte. Mais là où ça devient vraiment fou, c'est quand on essaye de faire le bilan énergétique de l'univers.
Comment ça, le bilan énergétique ?
Si on regarde de quoi est fait l'univers, la matière ordinaire, vous, moi, les étoiles, tout ce qu'on voit,
oui.
Ça ne représente que 5% de l'énergie totale de l'univers.
Seulement 5%? Mais et le reste?
Ah, le reste, c'est environ 25% de matière noire. On ne la voit pas, elle n'interagit pas avec la lumière, mais on détecte sa gravité. Et le plus gros morceau, 70%, c'est l'énergie sombre.
L'énergie sombre.
Une composante encore plus bizarre qui fait que l'expansion de l'univers s'accélère. Et ces deux-là, matière noire et énergie sombre, soit 95% d'univers, on n'a quasiment aucune idée de ce que c'est.
C'est incroyable. Donc, l'essentiel nous échappe. C'est frustrant et super excitant à la fois. Et pour décrire la gravité à cette échelle cosmique, c'est toujours Einstein qui a raison, hein. La relativité générale.
Toujours, oui. Sa théorie décrit la gravité comme une déformation de l'espace-temps par la masse et l'énergie. Et elle a prédit des trucs complètement dingues, comme les trous noirs ou les ondes gravitationnelles.
Ah oui, les ondes gravitationnelles. On commence à les détecter maintenant, c'est ça? Avec LIGO, Virgo...
Exactement. Ces vibrations de l'espace-temps, on peut enfin les écouter directement. C'est une nouvelle fenêtre sur l'univers.
Bon, revenons un peu sur Terre. Toute cette physique fondamentale, ça a des retombées pratiques, j'imagine. L'électronique, par exemple, ça vient de là, non?
Absolument. La physique de l'état solide, c'est elle qui nous dit pourquoi un métal conduit l'électricité et un plastique, non. En comprenant les semi-conducteurs et en les dopant pour créer des jonctions PN.
Le dopage, c'est ajouter des impuretés, c'est ça?
C'est ça, pour contrôler leurs propriétés électriques. Et c'est comme ça qu'on a inventé la diode, puis le transistor. La base de toute notre technologie numérique.
Et ça ne s'arrête pas, on découvre des matériaux nouveaux comme le graphène.
Une seule couche d'atomes de carbone?
Voilà.
Avec des propriétés étonnantes, ça ouvre la voie aux nanotechnologies, à plein de choses.
Et au-delà de l'électronique, ça sert dans d'autres domaines? La médecine, peut-être?
Énormément. La physique médicale, c'est crucial. L'imagerie, comme le PET scan, la tomographie par émission de positrons, ça utilise des antiparticules, la radiothérapie pour traiter les cancers, tout ça repose sur la physique nucléaire et des particules. Et ça va même plus loin. comprendre des systèmes complexes, comme le plasma, le quatrième état de la matière, ou même le climat. La théorie du chaos, l'effet papillon, ça vient de la physique aussi. On voit bien que tout est lié. Et du coup, la question qui vient, c'est « Est-ce qu'on cherche une théorie qui mettrait tout ça ensemble ?» Une unification. Ah, ça, c'est le grand rêve de beaucoup de physiciens. On a déjà réussi à unifier deux forces. L'électromagnétisme et la force faible, ça donne la théorie l'électrofaible.
D'accord.
L'étape d'après, ce serait d'y ajouter la force forte. Ça, c'est ce qu'on appelle les théories de grande unification, les GUT. Et le Graal, bien sûr, ce serait d'inclure la gravité pour avoir une théorie du tout.
Et on a des pistes pour ça ?
On a des pistes théoriques, oui. La supersymétrie, par exemple, qui postule que chaque particule qu'on connaît a une sorte de partenaire supersymétrique. Ou la théorie des cordes, qui imagine que les particules ne sont pas des points, mais des petites cordes qui vibrent. Mais là, on est vraiment aux frontières, à des énergies très élevées, près de ce qu'on appelle l'échelle de Planck. C'est très spéculatif encore.
Bon, si on essaye de résumer un peu. On a vu les briques de base de la matière. Comment l'univers a évolué et ce qui le compose majoritairement, même si c'est mystérieux. On a vu comment la recherche fondamentale donne des applications très concrètes et cette quête d'une unité ultime.
C'est ça. Et ce qui ressort, je crois, c'est vraiment l'interconnexion profonde entre tout ça. Le tout petit explique le très grand et la recherche fondamentale finit toujours par avoir un impact. Mais il faut rester humble, les questions ouvertes sont gigantesques.
Oui.
Qu'est-ce que la matière noire ? L'énergie sombre ? Comment unifier la gravité ? On est loin d'avoir fini le travail. Et peut-être pour terminer une petite pensée, pour la route, cette recherche de lois universelles, est-ce qu'elle nous mène vers une sorte de simplicité cachée derrière tout ça ? Ou est-ce qu'au contraire, comme certaines idées type multivers le suggèrent, ça ouvre la porte à une réalité encore plus vaste, plus étrange que ce qu'on peut imaginer ? Voilà, matière à réflexion.